Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 39e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous avec l'actu, rendez-vous hebdomadaire dans lequel on fait notre petite sélection de news avec CAF. Salut CAF.
Salut Pascal.
Est-ce que ça va bien?
Écoute, ça va pas mal. On va être positif cette semaine.
Cette semaine, on y croit. On est parti tout de suite avec le gaming et notre habitué de service, mais sur mobile cette fois-ci, PUBG.
Bah oui, parce que les gens s'inquiètent quand on n'en parle pas. Moi, je le sais, hein, vous le dites pas, mais je sais que
on
ça vous, vous stressez un petit peu. Il y a plusieurs petites news autour de PUBG cette semaine. Une qui est genre les analystes qui font genre oh, mon dieu, ils ont vachement moins de joueurs en même temps sur Steam, c'est une horreur, ils vont tous mourir.
Bien sûr,
ouais. Voilà, donc ils ont vendu plus de 30 millions de jeux à l'heure actuelle, hein, en moins d'un an, donc ça c'est plutôt pas mal. Et effectivement, il y a moins de joueurs quoi, en mode simultané hein, que ce qu'on a vu il y a quelques semaines quand c'est monté à plus de 3 millions. Et il y a là plusieurs théories. Une théorie rigolote, c'est de se dire, bah en fait, ils ont quand même banni à peu près 13% des joueurs.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros nettoyage.
Non, mais t'imagines, 13%. On estime le nombre de bannis à 4 millions.
Putain.
Donc, franchement, je pense que c'est du jamais vu. C'est-à-dire que les mecs ont banni plus de mecs que les trois quarts des jeux vendent d'édition, en fait. Hein,
c'est ce que j'ai dit, j'ai pas joué depuis longtemps, je vais me reconnecter histoire de voir si j'ai pas un russe qui a joué avec mon compte et qui s'est fait ban. Ça m'est déjà arrivé avec Need for Speed, donc.
C'est vrai. Mais donc, c'est impressionnant. Et du coup, évidemment, ça tease les convoitises. Et on savait qu'il y avait une version mobile en ligne de mire depuis un petit moment. J'en parle cette semaine sur Geekzone. C'était nos amis de chez Tencent, les inévitables géants chinois qui ont récupéré la licence. Et alors là, les mecs, ils ont un peu surpris tout le monde, parce que moi, j'avais pas trop suivi. J'avais fait un papier sur les clones de PUBG qui sont disponibles sur iOS et Android depuis un moment. Il y en a un paquet, pareil, hein, le papier est linké sur geekzone.fr. Et la blague, c'est que donc Tencent, ils se sont dit, mais nous aussi, on va en faire plusieurs. On va pas en faire qu'un. Et donc, ils ont sorti deux jeux avec la licence officielle.
D'accord.
Avec des titres traduits directement du chinois qui donnent des trucs fantastiques du style PUBG Exhilarating Battlefield. Ou PUBG Army Attack, beaucoup moins, tu vois, ouais. T'es moins lyrique, moins dans le waouh.
Il va à l'essentiel, quoi.
Voilà, donc ça m'a fait marrer. Il y a une pub incroyable pour ce dernier, d'ailleurs, qui est sorti, que je vous ai collé, que j'ai été rippé comme un sale sur un compte Twitter pour la mettre sur YouTube, pour pouvoir vous la partager facilement. Elle est sur la news en question, où les mecs font plus de 2 minutes de live action autour de PUBG, ultra faible, mais dans les détails, tu sais, avec les mêmes armements, ouais. Les fringues et tout. Donc, bah, vous pouvez aller voir ça. Ça vous détendra si vous aimez le nouvel an chinois. C'est en même temps, tu vois, et là tu peux le faire version peaceful, ça va bien se passer. Non, c'est impressionnant. Et donc la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est très proche de la version PC et Xbox, et l'autre qui est plus arcade action, avec a priori plus de loot, des fights un peu plus rapides.
D'accord.
Les deux versions sont assez jolies, mais la version plus proche de la version PC est quand même un peu plus détaillée, un peu plus belle, j'ai envie de dire. Vous verrez ça sur la news, hein, parce que par podcast, c'est un peu compliqué, mais il y a des vidéos dans tous les sens sur la news que j'ai fait cette semaine. Donc
ça a de la gueule, moi, je regardais. Hein.
Bah, franchement, c'est cool. C'est, visuellement, ouais. Ça déboîte. Alors après, évidemment, se pose la question de comment ça se... Quel est le feeling, si tu veux, ouais. Au niveau tactile, quand tu prends ça en main. Bon, déjà, je vous déconseille de jouer avec ça, avec des petits smartphones. Même avec un grand smartphone, c'est pas fou. C'est vraiment, enfin, pour moi, la plateforme idéale pour tous ces jeux mobiles, parce que je sais que je vous ai déjà parlé de Arena of Valor, ce genre de trucs. Pour moi, c'est l'iPad. Enfin, en tout cas, l'iPad ou une tablette un peu correcte sur Android. Le problème, c'est que des tablettes correctes Android, il n'y en a pas des tonnes en ce moment. Donc, l'iPad est un peu en mode genre peinard. Par contre, quand tu joues sur tablette dans ces conditions-là, c'est assez potable. Après, oui, bon, bah, ça reste des joysticks virtuels et ça remplacera jamais le clavier et la souris. Mais si vous êtes en manque en déplacement, et ben, ça fait le boulot et vous pouvez voir ces petits trucs gratos puisque déjà, bon, c'est comme d'habitude, c'est du free to play, hein, donc on paye rien. En revanche, c'est disponible que en Chine actuellement et à l'export. On n'a pas de date, on n'a pas d'infos. En revanche, on connaît Tencent et pour l'instant, tous les gros titres ont été adaptés partout. Donc, à mon avis, il faut juste s'armer de patience. Il y en a certains qui ont fait des comptes directement sur les App Store Android ou iOS chinois pour aller récupérer ça. Je n'ai pas eu cette motivation. Je ne vais pas vous mentir. Mais je vous fais confiance. Si vous êtes vraiment en manque, vous le ferez. Vous nous raconterez. Mais voilà, bon, je vous laisse découvrir tout ça. Et puis, vous nous direz ce que vous en pensez sur le forum. Moi, en tout cas, je trouve que ça va faire un peu d'ombre aux copies qu'il y a eu, qui étaient quand même pas très inspirées d'un point de vue design. Donc voilà, je pense.
Ça va remettre de l'ordre dans tout ça, quoi.
Ouais, Tencent va reprendre sa place sur le marché en faisant genre, ça y est, le patron est là, maintenant vous pouvez tous rentrer chez vous. On verra.
Et on va continuer avec un truc que j'aime bien, surtout en ce moment, vu que je suis fauché, c'est les jeux gratuits. Enfin, un jeu gratuit en particulier.
Les jeux gratuits, ouais, c'est, alors, c'est juste une toute petite news pour vous dire que Devil May Cry débarque dans un espèce de pack remaster HD sur PC. Ça arrive le 13 mars chez nous, normalement, mais ça débarque partout, hein, PC, PS4, Xbox One. Et pour fêter ça, le premier épisode, en fait, est dispo gratos. Donc, c'est le remaster qui est gratuit sur PC à partir du 27 février, si je ne dis pas de bêtises. Et pour ça, il faut juste avoir un compte Twitch, puisque c'est avec, ça fait partie de toutes les promos que Amazon fait via Twitch. Si t'as un compte lié, en fait, tu actives ce truc-là, et les mecs te disent, ah, ok, bah vas-y, gratos, tu peux récupérer le jeu. Donc là, il faut lier son compte Steam, je crois, et puis vous récupérez la licence directement, et ça restera actif après quand le jeu sortira, évidemment.
Et on va passer du jeu gratuit à un truc qui n'a rien à voir, la grogne chez nos amis de Gen System, le développeur français. Je sais pas si t'as vu passer le truc ou pas.
Si, c'est moins gratuit là.
Oui, c'est moins gratuit, clairement. Alors, a priori, c'était plus arrivé depuis 7 ans dans l'histoire du jeu vidéo français. La dernière fois, de mémoire, c'était les gens d'Eden qui s'étaient mis en grève pour je sais plus quelle raison exacte d'ailleurs. Ça concerne cette fois-ci 21 employés de Gen System, donc le développeur notamment d'Act of Aggression récemment. C'est en cours depuis mercredi, le 14 février, je vais Saint-Valentin en passage. A priori, ça viendrait d'un ras-le-bol après 15 mois de discussion avec la direction sur une histoire d'heures sup qui aurait pas été payée et qu'ils auraient appris récemment qu'en fait on n'allait pas leur payer, qu'on allait leur baisser leur salaire brut histoire de justifier le fait qu'ils fassent des heures sup.
Nice.
C'est complètement c'est magique. Enfin bon, ça c'est le communiqué de presse qui est relayé par
j'avais aussi passé des trucs autour de reclassement de personnes en fonction de leur statut, enfin qu'ils avaient changé les gens de poste sans rien leur demander, sans les prévenir, etc.
C'est ça, en fait ils ont pas respecté tout le système de grades et les promotions et les salaires qui vont avec. Donc ils ont recadré des mecs en technicos de base alors que les mecs étaient là à la base comme ingénieurs ou que sais-je. Donc ça fait pas marrer tout le monde et comme ils ont pas réussi à trouver un terrain d'entente avec la direction manifestement par les voies traditionnelles, ils en ont eu marre, ils ont décidé de se mettre en grève donc depuis mercredi. Donc voilà, on leur fait un petit coucou, on les soutient. Je crois qu'il y a un pot commun si vous voulez filer un peu de thunes pour soutenir les opérations de grève de ce genre. C'est un peu mal pour le jeu vidéo français en ce moment après l'affaire Quantique.
Bah, en tout cas ça va mal en termes d'image. Après je pense que c'est aussi des épiphénomènes. J'espère que c'est pas partout pareil. Moi, j'ai quand même pas mal de potes dans le milieu, pas tant que ça en France, incroyablement. Relation de cause à effet, je ne sais pas. C'est tout le monde n'en est pas à ce point-là. Mais effectivement, il y a sorti des petits cours de management qui n'ont pas été pris chez tout le monde. Et je pense qu'il serait bon de rappeler quelques règles. C'est un peu dommage d'en arriver là pour bosser dans des conditions potables, quoi, tout bêtement.
Ouais, si vous voulez avoir plus d'infos, on vous linkera le communiqué de presse officiel qui s'appelle Act of Grève. Voilà, au passage, ça a été diffusé sur le site du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, le STJV. Je vous linkerai ça dans le billet qui accompagne ce podcast. Et on va passer du côté des apps avec une app qui s'appelle Inspectre.
Inspectre.
T'as écrit Spectre dans la...
Ouais,
enfin bref.
Ouais, il manque des lettres, ça arrive. Ce sont des choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, je vais la rajouter tout de suite. Tu te rappelles de notre petit copain Spectre.
Ouais.
Hein, avec son petit copain, comment il s'appelle déjà?
Meldon,
voilà, tu vois, qui nous ont occupés le mois dernier.
Bah oui.
La vraie question, d'ailleurs, qui nous est posée de temps en temps sur le forum, c'est où on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est protégé? Est-ce que les patchs qui sont sortis sont suffisants? Est-ce que je les ai installés? Blablabla, blablabla. Donc, c'est un peu compliqué de suivre. Et sous Windows, qui met un peu en mode open bar sur ce truc-là, si tu suis pas l'actualité, il est bon d'avoir une petite application qui te permette de tout de suite tester où tu en es. C'est exactement ce que fait Inspectre, qui est une appli développée par un mec qui est une sommité dans le monde de la sécu, qui est au-dessus de tout soupçon, j'ai envie de te dire. Tu télécharges un .exe, donc tu sais, les gens sont toujours un petit peu genre, oh là là, est-ce qu'on n'est pas en train de me refourguer un petit virus, justement, là? Non, tout va bien. Et donc, c'est juste un .exe, vous le téléchargez, vous le lancez, et ça va vous dire, bim, est-ce que vous êtes protégé contre Meldon? Est-ce que vous êtes protégé contre Spectre? Est-ce que vous avez la bonne version des patchs qui font que votre machine n'est pas trop impactée niveau performance? Ou est-ce que vous êtes refourguer? Ou est-ce que vous vous êtes fait refourguer une version un peu ancienne et qui rame, est-ce qu'il y a mieux qui est sorti depuis? Bref, il y a tout sur ce truc-là. Vous l'installez, vous l'installez même pas d'ailleurs, vous le téléchargez, vous le lancez et vous êtes au courant. Voilà, c'était juste pour vous balancer les liens, quoi.
C'est notre ami Gibson Research, je vois, oui, c'est un vieux de la vieille, hein.
Ah oui, lui.
C'est déjà lui qui permettait de vérifier si on n'avait pas des ports ouverts sur son PC, je me souviens, il y a
exactement.
Quelques années.
Alors, c'est pas le roi du design, hein. Non. Ni sur le site web, ni sur l'application.
C'est toujours très bavard aussi.
Ah, ça fait le boulot, ça nous raconte comment ça marche, le mec veut éduquer, etc. Mais il est très bien et au moins bah moi je l'ai téléchargé, j'ai regardé vite fait et ça fait le boulot, c'est parfait.
Allez, on va passer du côté des plugins de son avec un plugin qui s'appelle Ambeo Orbit. On parle pas mal sur le forum GZ et puis sur le Discord aussi de son binaural en ce moment et de spatialisation du son.
Ok.
Ouais, avec les casques 7.1 et tout ça pour le jeu vidéo. Mm-hmm. Je voulais juste attirer l'attention sur les gens que ça intéresse, parce que pour qu'ils sachent qu'on peut aussi le faire avec de la prod audio avec son petit matos en stéréo. Sennheiser a sorti un plugin gratos qui s'appelle donc Ambeo Orbit. Sennheiser, on vous les présente plus, hein, ceux qui font les super casques, les super micros, tout ça. Donc c'est un plugin VSTAU pour Windows et Mac et qui permet donc de situer vos sons dans l'espace en 3D. On peut régler la position en fonction de la hauteur, en fonction de la position avant-arrière, gauche-droite. On peut aussi rajouter de la largeur au champ stéréo et on peut aussi rajouter de la réflexion. Donc c'est pas vraiment de la réverbération, c'est plus une simulation de comment le son va réfléchir sur des environnements que vous allez mettre autour, etc. C'est super gratuit. Donc voilà, si vous voulez, je sais pas, faire de la sonorisation de jeux vidéo en 5.1 et que vous avez que un petit casque 2.0 et que vous voulez quand même faire le taf et voir ce que ça donne dans une spatialisation, mais vous pouvez le faire avec ce petit plugin qui est complètement gratuit et je vous filerai le lien pour aller le télécharger dans le petit billet qui accompagne ce podcast. Et puis tu voulais parler de la nouvelle version de Twitchy.
Ouais, Twitchy c'est le seul moyen de regarder Twitch sur Apple TV et c'est fait par des petits français, on en a déjà parlé sur Geekzone. Ils ont sorti cette semaine une V4 qui en fait s'appelle pareil, mais ils ont tout refait. Donc c'est pas vraiment une évolution, c'est vraiment ils ont tout balancé. C'est vrai que le design de l'ancienne version était fonctionnel, mais pas extraordinaire. Là, ils ont pris les services d'un mec qui fait le design de cette nouvelle version, qui respecte complètement les guidelines de TVOS. Je le dis comme ça parce que dans le coup de gueule de Jean-Pierre Caff, il est possible que nous parlions de ce sujet, n'est-ce pas ? Et je me retiens pour ne pas en parler tout de suite. Donc voilà, vous pouvez aller télécharger ça, c'est toujours super gratos, les mecs font un boulot incroyable pour une app gratos, je tiens à le rappeler. Ils ont un nouveau logo, maintenant tu as un joli fond blanc avec tous les streams auxquels tu es abonné, etc. Parce qu'évidemment tu peux te linker sur ton compte directement pour voir les gens que tu follow et compagnie. Le seul reproche que j'ai par rapport à l'ancienne version, c'est qu'on revient sur une navigation à l'horizontale, si tu veux, en fonction des sections, que tu as aussi sur Android TV, sur Shield et compagnie, et qui est un truc que je déteste. Moi, je voudrais pouvoir avoir un menu où tu as carrément un wall avec tous les écrans d'une catégorie pour pouvoir naviguer et voir d'un coup d'œil exactement tout ce qu'il y a, et pas être obligé de scroller pendant 1000 ans à l'horizontale. Je trouve ça absolument débile et je sais pas quel mec s'est dit que c'était une bonne idée un jour, en fait, ce système-là. Donc, soit j'ai raté un truc parce que je l'ai testé très rapidement avant d'enregistrer le podcast, soit c'est juste super pénible, et ça c'est peut-être plus joli, il y a des nouveaux menus hyper plus informatifs quand tu es sur le stream avec des petits bandeaux en transparence. Franchement, c'est nickel, mais franchement, j'aurais aussi bien voulu garder le wall de vignettes où tu peux tout de suite voir qui fait quoi sur une section donnée et pas être obligé de te taper un scrolling à l'horizontale pendant 1500 ans pour trouver ton streamer avec 12 viewers, ce qui serait quand même assez pratique.
Mais quoi, du coup, c'est un peu la version un pas en avant, un pas en arrière, ou bien?
Bah, il y a un peu de ça, mais en fait, c'est les guidelines, c'est des trucs que tu trouves, ce système de navigation, c'est ce que tu trouves sur Netflix, c'est ce que tu trouves sur tous les trucs actuellement, et je le déteste, c'est ce que tu trouves, en fait, sur les télés, et je sais pas pourquoi les mecs se sont dit que c'était une bonne idée. Genre les gens sont pas capables de cliquer sur un putain de menu, donc maintenant il faut mettre tout à l'horizontale dans une seule section. C'est juste insupportable. Je déteste ça sur Netflix. En plus, quand l'interface est pas géniale, genre avec nos copains de chez Prime Video au hasard, c'est vraiment vraiment honteux. Et je comprends pas pourquoi les gens font ça. Donc bref, on en reparlera en fin de podcast pour d'autres raisons, mais voilà. Par contre, faites gaffe, petit truc, c'est que Twitchy, il y a un chinois, hein, Lunao, salut, coucou, qui a appelé son application de la même manière sur TVOS, parce que c'est drôle. Et lui, en plus, il a une version payante à 1€, et ça fait pas du tout le taf, c'est moche, ça ne sert à rien. Donc ne vous gourrez pas quand vous faites votre recherche, cherchez une release par Cédric Eugénie, qui est, de toute façon, les trois quarts de la team, c'est des Frenchies, donc vous pouvez pas vous gourer. Ne vous faites pas refourguer l'autre version qui s'appelle pareil, merci Apple, sur les guidelines du store de temps en temps, ça me fait toujours bien marrer.
Et on va finir cette section app avec des news de Chrome, parce que oui, il paraît qu'il y a des gens qui utilisent encore Chrome.
Plein.
Ouais, malheureusement. Alors, Chrome a désormais un bloqueur de pub intégré depuis la dernière version. Je sais pas quel numéro on est, je t'avoue que j'ai arrêté de compter. On a presque envie de dire qu'il était temps, sauf qu'en fait, c'est pas vraiment encore la panacée, hein. L'idée pour Chrome, là, enfin pour Google surtout, c'est surtout d'éviter que les gens aillent voir ailleurs, aillent installer d'autres bloqueurs sur lesquels ils ont absolument aucun contrôle, et puis du coup que ça mette un peu des bâtons dans les roues de leur business. Mais du coup, celui livré avec Chrome laisse passer pas mal de trucs, hein. Google dit toutes les pubs qui respectent nos standards, les fameux BAS.
Ouais, c'est ça en fait, mais ils sont sur le standard global en fait des good guys, tu sais, de la publicité.
Ouais.
Et en fait, ils ont juste repris ce truc-là. Ils ont pas essayé de réinventer la poudre. En gros, c'est pas de pop-up, pas de son, pas d'autoplay vidéo, blablabla, blablabla, les trucs classiques si tu veux.
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent donc les Better Ads Standards. Et donc, ouais, c'est ce que tu disais, hein, plus de pubs qui font 30% de l'écran du téléphone, plus de son qui est lancé quand on lance une vidéo, plus de pop-up intégral avec compte à rebours, enfin toutes ces saloperies qu'on a sur nos téléphones de manière générale.
Ouais, parce que c'est valable sur téléphone et desktop, hein, ouais. Toutes les versions de Chrome intègrent le truc.
Voilà, donc est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose?
Non, c'est une bonne chose, franchement c'est une bonne chose. Après, le truc qu'il faut pas oublier, c'est que vous êtes un, pas obligé d'utiliser Chrome, deux, vous êtes pas obligé d'utiliser leur bloqueur, et rien ne vous empêche de rajouter votre uBlock Origin, AdGuard, whatever. Faites votre marché, il y a plein de solutions sur le dans le business qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, évitez les AdBlock classiques, puisque finalement maintenant ce sont eux les moins efficaces. uBlock et uBlock Origin surtout, plus AdGuard, je pense que ce sont les deux meilleurs du marché là tout de suite. D'ailleurs, un petit mot sur AdGuard, ça m'évitera les messages des gens qui savent pas lire. Je parle pas de la suite à installer sur votre OS, je parle de l'extension gratuite pour navigateur. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui sont mais c'est payant AdGuard. En fait, si t'avais appris à lire à l'école, tu verrais que c'est pas le bon menu et qu'il faut cliquer ailleurs. Donc globalement, c'est très bien aussi. D'ailleurs, il y a des listes AdGuard qui sont maintenant disponibles chez uBlock. Sur certains trucs. Bref, ce sont les sources qui bossent le mieux et qui bloquent le plus de trucs, puisque bizarrement, je ne vous cache pas que le bloqueur de publicité de Chrome intégré va pas bloquer grand chose sur YouTube.
Eh ouais.
Hein, bizarrement. Donc voilà, soyez pas non plus stupides, il y a des trucs où il est bon de continuer à faire son travail soi-même.
Et on va passer du côté de la culture, et on va bien évidemment parler du film qui est sorti mercredi et qu'on a déjà vu pour une fois, on l'a vu tous les deux, c'est Black Panther. C'est
Wakanda Forever.
Voilà.
Alors, pour une fois, je crois que c'est la seule fois depuis très longtemps, en tout cas depuis qu'on bosse sur ces trucs-là, c'est la première fois on l'a vu tous les deux dans les temps.
Ouais, toi tu l'as vu quoi, hier, c'est ça?
Hier soir, ouais.
Eh bien écoute, ouais, voilà, qu'en dire, hein. Nous on a fait un gros dossier cette semaine sur le film, toute la jeunesse du film, hein, donc on fait pas de critique parce que c'est pas notre taf, mais on a parlé un peu de tout ce qu'il y a, toutes les 10 ans de Wesley Snipes, les 20 ans de développement pour le projet.
J'ai une petite pensée pour notre ami Wesley, qui n'a rien lâché jusqu'au bout.
Et pourtant qui s'est fait lâcher.
Et qui n'est pas là du tout.
Voilà.
Et c'est pas très grave. Pardon.
C'est vrai, ils auraient pu lui mettre un petit caméo, un petit quelque chose quand même.
J'aurais pu mourir au début, tu sais, dans un truc horrible.
Sinon, on vous avait aussi fait des spéciales, hein, dans les clairvoyants, je les ai linkés dans le dossier, donc si vous voulez aller écouter un peu les focus sur Black Panther, sur le Wakanda de manière générale, c'est là qu'il faut aller. Puis nous, on va parler en vitesse du film, vu qu'on l'a vu pour une fois, on va essayer de pas vous spoiler. Kev, t'en as pensé quoi, toi?
Moi, je suis extrêmement surpris de la façon dont ils ont réussi à gérer et l'univers, voilà, et les effets spéciaux, et tous les sujets ultra touchy, à base dont on est en train de danser la polka sur des œufs et on va rien casser. Franchement, ils s'en sortent très très bien. Il y a évidemment des messages politiques, il y a évidemment du girl power, etc. Et je trouve que tout est extrêmement bien ficelé. C'est jamais forcé. En même temps, c'est là et je trouve que c'est une très bonne chose que ça soit là. Je suis impressionné par le travail d'écriture qu'il y a dans le film, et après, en termes de d'action movie, si on met tous les trucs sérieux de côté et qu'on garde que les visuels et la claque que tu prends dans ta gueule, tu la prends dans ta gueule, la claque. Donc le boulot est complètement fait. Tout l'univers du Wakanda est ultra bien rendu. C'est magnifique. Et puis le casting a tombé par terre. Donc non, pour moi, c'est carton plein. Je suis fan de tous les gadgets de Shuri, c'est ça?
Ouais, Shuri, ouais.
Et toi, tu es fan de Shuri, donc.
Et moi, je suis fan de Shuri. Je veux que, comme je disais dans le dossier, je veux que ce soit la prochaine Ironheart, qui est celle qui succède à Iron Man dans les comics et qui est une jeune black, en fait. Donc, ça pourrait coller.
J'avoue.
Ça serait assez rigolo.
Surtout qu'elle est pas mauvaise en techno, la petite.
Voilà, exactement. Bah, moi, pareil que toi, hein, j'ai été assez impressionné par le boulot d'écriture et puis surtout le fait qu'ils prennent le temps, parfois, de poser des scènes un peu plus lentes, qui durent plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de voir dans les blockbusters pour justement développer un peu les échanges entre les personnages. J'en parlais dans le dossier aussi. Ils avaient embauché juste pour développer la relation entre T'Challa et sa sœur. Ils avaient embauché les deux frangins Glover pour bosser dessus. Donc deux mecs qui sont spécialisés que sur ça, en fait, dans le film. Donc c'est-à-dire le niveau de perfectionnisme du réalisateur Ryan Coogler sur ce coup-là. On sent que c'est un projet qu'il voulait pas, sur lequel il voulait pas se foirer et qu'il a mis tous les petits plats dans les grands pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Enfin, moi, j'y croyais pas trop, en fait.
Je suis sorti
de là en me disant, bah, waouh, j'ai vu un excellent film, en fait, sans même me dire, j'ai vu un excellent film de super-héros, quoi. Il y a une intrigue politique, il y a toute une histoire familiale, l'histoire des tribus, il y a tout ce relationnel. Le casting, comme tu disais, est vraiment fantastique. Enfin, ils sont tous mémorables, en fait, dans le rôle, ce qui est assez rare avec les films Marvel où parfois les second rôles ont tendance à passer un peu à l'arrière-plan. Et puis, le bad guy est vraiment un bad guy, quoi.
Lui, il a eu des problèmes, lui. Hein. Lui, il est pas content. Mais, il y a un seul truc qui m'a fait tiquer, en fait ça m'a fait rire, mais je sais pas si toi tu l'as relevé, c'est notre ami Forest Whitaker qui arrive en espèce de comment dirais-je, de gourou,
ouais, de grand prêtre,
de grand prêtre du truc, et son rôle, il m'a fait mais tellement penser à son rôle dans Star Wars.
Écoute, j'ai l'impression que ça avait exactement la même réflexion.
J'ai cru que c'était un coupé collé quoi.
Je me suis dit Forest Whitaker avec les accents un peu exotiques, faut qu'il arrête, en fait, c'est pas son truc. Il a tendance à en faire des tonnes et il a un côté ultra tendu, en fait, quand il se lance dans ses monologues, et c'était exactement la même chose dans Rogue One. J'avais déconnecté du film à ce moment-là
et pareil. Ça t'aide pas, quoi.
Non, mais il nous fait la même, en fait.
Ça m'a fait marrer parce que l'arrivée du personnage, le mouvement de caméra et tout, c'est très très proche. C'est assez marrant. J'ai hâte de que les mecs fassent des montages quand le truc sortira. Mais voilà. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que moi, le perso en plus de notre ami Black Panther, je l'aimais bien dans les comics quand j'étais gosse. Je suis vraiment, je pensais pas avoir aussi noche une adaptation aussi réussie. Donc, je suis hyper content, même si ça a pris aussi longtemps.
Bah voilà. Black Panther, donc dans les salles en ce moment, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis on aura l'occasion de vous en reparler, on vous en a déjà beaucoup parlé dans les clairvoyants. On va terminer cette page culture avec une petite recommandation de série. Je voulais vous parler de la mini-série qui est diffusée en ce moment sur le Paramount Network aux États-Unis depuis le 24 janvier dernier. Petite mini-série en 6 parties, donc d'une heure, qui s'appelle Waco. Alors Waco, est-ce que tu te souviens de ce que c'est, Kef, ou pas du tout?
Mais alors, je me souviens pas, parce que je ne sais pas si j'ai su un jour, en vrai.
C'est cette histoire donc de prise d'otage qui a été présentée à l'époque comme une prise d'otage.
Ah,
elle secte des Davidiens dans le Texas, donc ouais, à Waco, okay. Texas, voilà, avec David Koresh, qu'on suspectait donc de détenir illégalement des armes et d'avoir l'intention d'en faire usage. Donc il y a eu un assaut en fait de l'ETF à l'époque, donc c'est Arms, Tobacco et Fireworks, je crois. C'est un peu l'espace de douaniers, de super douaniers américains. Ça a malheureusement assez vite mal tourné. Il y a eu des morts lors du premier assaut, en fait. Donc il y a eu une longue négociation de plusieurs jours, d'une grosse dizaine de jours en fait, qui a suivi. Et donc toute la mini-série, si tu veux, raconte avant le début de la prise d'assaut et puis tout le développement derrière avec la négociation, qui est super intéressante, parce que pour le coup la série se base en fait sur deux bouquins. Le premier, c'est le bouquin d'un mec qui a réussi à s'échapper en fait avant que ça tourne mal, hein. Je veux pas vous spoiler la série parce que c'est un fait d'actualité connu, donc à la fin il a fait brûler en fait tout le bordel et tout le monde est mort, enfin tout sauf ceux qui avaient réussi à s'échapper avant.
Et
mais on sait
journée.
Pas très bien, voilà, on sait pas très bien si c'est lui qui a mis le feu au truc et que ça a été une espèce de suicide collectif, ou si les flics qui en ont eu marre et qui ont décidé, le FBI ou l'ETF, de mettre le feu pour que ça se termine. Bref, donc c'est basé sur deux bouquins, je disais, celui d'un des survivants du groupe, et l'autre bouquin, c'est le bouquin du négociateur du FBI qui s'appelle Gart Nussner, et qui est donc le monsieur qui a géré toute la négociation avec David Koresh et les siens pendant qu'il a essayé de réparer les trucs, et que derrière l'ETF s'impatientait et voulait passer. Ils sont arrivés avec des tanks à un moment, hein, donc ils avaient vraiment envie d'en finir.
Putain, les mecs, ils voulaient utiliser leur matos, quoi.
Ouais, non, ils sont venus avec des tanks pour leur faire peur, entre guillemets, mais enfin, je vois vraiment pas. C'est une histoire assez délirante, donc si vous n'avez pas connu ce fait d'actualité, et même si vous l'avez connu, en fait, matez la série parce qu'elle apporte un éclairage nouveau sur un fait qu'on croyait connaître, en fait, et on se rend compte qu'en fait, on était pas mal manipulé au niveau de la communication. Donc voilà, Waco, c'est 6 épisodes, ça se mate assez vite, pour le moment, on est au 4e, et il y en encore deux qui doivent être diffusés. Donc, si vous voulez regarder ça, c'est du côté de la Paramount Network. Et on va terminer notre sélection d'actu avec le monde de la tech et les Apple HomePod qui apparemment font bien parler d'eux.
Ah là, écoute, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'Apple sort un truc, t'es jamais déçu. T'as une armée de haters en embuscade qui attendent le truc. Je pense que j'ai jamais vu autant d'articles de presse qui sont titrés genre les 8 raisons, les 12 raisons, les 24 raisons pour ne pas acheter le HomePod d'Apple. Et t'es là genre, ok. Et d'ailleurs, à tel point qu'il y a un compte parodique de Johnny Ive, le designer de chez Apple, qui est très drôle, où il reprend un truc de Business Insider, je crois, et il fait genre les deux raisons pour lesquelles je n'achèterai pas le HomePod, et le mec se fout de sa gueule pendant 4 tweets, genre vraiment Ben, que deux raisons, que
oui, deux raisons pas,
Ben, il en faut au moins 8 pour avoir le droit d'être publié Ben, qu'est-ce que tu fais? Et c'est hyper drôle. Donc, si on met de côté tous ces trucs-là, vite fait, les gens sont quand même plus ou moins d'accord pour dire que le son est très bon pour une enceinte à 349€. C'est une enceinte avant d'être un smart speaker, comme on dit, hein, vu que bah, c'est Siri dedans, les enfants, et Siri, elle a du mal, elle est un peu mentally challenged encore, hein, il faut qu'elle grandisse, et pour le moment, comme on est entièrement dans l'écosystème Apple, évidemment que si on fait un test en face d'Alexa ou en face de nos potes de chez Google Home, elle se fait exploser, comme se fait exploser Siri sur un iPhone, sur des choses un peu simples, genre si vous êtes dans un aéroport, dans une file pour prendre votre avion, etc., vous mettez le numéro de vol, Google Assistant va vous sortir directement la porte d'embarquement, l'heure, s'il est en retard, etc. Siri va faire une recherche sur je sais pas quoi, ça va dépendre du numéro. Donc c'est, y a encore du boulot, ils sont dessus, parce que je vous rappelle qu'Apple c'est une petite PME avec 2-3 sous, donc a priori c'est pas un truc qu'ils vont laisser courir et pourrir pendant très longtemps, il faut juste le temps que ça se fasse. Et le machine learning, ça se fait pas en 2 jours. Mais bref, tout ça pour dire que le truc le plus drôle autour du HomePod, parce que oui, le son, les reviews, tout ça, bah, tout le monde a ses oreilles et puis tout le monde a ses écosystèmes, donc tout le monde va avoir son avis. C'est comme les, mais bon, celle-là, je vais pas la faire sur le podcast. C'est une vanne qui n'a pas sa place ici. Mais en revanche, il y a un truc très drôle. C'est que le cul du HomePod est en silicone quand tu le poses. Ok?
D'accord.
Le silicone, c'est une matière qui réagit pas très bien avec le bois non traité. Et du coup, là où c'est en contact avec certains bois, ça fait des super décolorations vraiment pas agréables. Mm. Surtout quand t'as du meuble un peu sympa, un peu cher, etc. Donc les gens sont pas très contents. Évidemment, c'est parti en eau de boudin directement sur Internet en mode genre « Oui, Apple, c'est mécréant, regardez. »
C'est quoi? C'est le meuble guette maintenant, le bois guette?
C'est le, ouais, je l'ai appelé le circle guette, moi. Mais, parce que bon, après, tu peux faire plein de vannes débiles et un peu cracra. Mais franchement, là, j'ai envie de te dire que c'est du clickbait Apple, donc on a l'habitude. Et la blague, c'est qu'il y a un mec qui, après avoir fait un papier en disant vraiment c'est des connards, regardez, moi avec ma Sono, j'ai pas de... Ah bah en fait si, j'ai des problèmes, j'avais pas bien regardé. Et donc la Sonos One qui a 4 petits pieds en silicone, bah en fait c'est de la chimie et je pense qu'on a des gens qui pourraient nous expliquer ça, mais ça fait des traces sur les meubles non traités de la même manière. Ah, sauf que comme c'est pas du tout, c'est 4 petits pieds, c'est pas tout c'est pas un rond, c'est pas tout le cul du truc qui est en silicone, bah ça c'est moins visible au départ. Mais quand tu regardes, les mecs ont fait les tests et ça fait exactement la même chose. Et donc là on arrive au truc le plus drôle de l'histoire. Ça c'était hier, hein, ou avant-hier. Je pense que le truc, les gens commençaient à en parler avant-hier, il me semble. Et donc, aujourd'hui, je vois les premiers produits, genre les petits coasters, des petits trucs en cuir brindés, à acheter $25 pour pouvoir mettre sous ton HomePod. Et je me dis, il y a des mecs qui ont quand même pas les deux pieds dans le même sabot. Parce que, tu vois, ils ont réussi à sortir le site web, à faire un produit, les mecs, en 24 heures pour vendre le truc, quoi. Je dis, bravo. C'est impressionnant. Donc voilà, pour le HomePod, vous en achetez si vous avez besoin parce que, et que vous aimez les produits Apple. Mais sinon, bah sinon un bon ampli AirPlay, c'est très bien aussi, avec des vraies enceintes.
Et on va passer au rant, et on a eu des failli avoir une avant-première tout à l'heure, mais c'est maintenant, c'est l'heure, tu vas pouvoir te lâcher.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Oui, alors, hein, de quoi on parle aujourd'hui? On parle des mecs qui ont la flemme. Pour moi, 2018, c'est un peu l'année de la flemme chez les développeurs d'applications qui doivent avoir des managers qui ont encore plus la flemme qu'eux, j'ai l'impression. Et on se retrouve avec... j'ai jamais vu autant d'applis qui sont un peu en mode YOLO, les pieds sur la table basse avec les pompes. Genre, non, toi, ton OS, on va pas respecter les guidelines, on en a rien à foutre, on fait ce qu'on veut. On est moche si on veut, on sert à rien si on veut, ou on va prendre 1 milliard de ressources si on veut. Alors, de quoi on parle exactement? C'est mon petit coup de gueule sur toutes les apps Electron. Déjà, Electron, c'est quoi? C'est un framework qui permet de prendre ta web app. Donc, je prends des exemples connus chez nous actuellement. On va prendre Discord, on va prendre Slack, on va prendre ce genre d'outils-là. Et les mecs se disent, on va faire des applis sur tous les OS. Bah ouais, mais en fait, ton appli sur tous les OS, c'est uniquement la version web qui est repackagée dans un navigateur, une sorte de mini Chrome, hein, si vous voulez, que tu installes en même temps que ton appli web. Et donc, on appelle ça Electron. Je fais un raccourci, mais en gros, ça donne ça. Et du coup, bah, ça bouffe des ressources, parce qu'à chaque appli que tu vas lancer avec ce truc-là, à chaque fois, tu fais tourner un mini browser, si tu veux, qui va se connecter, qui fait que tourner, qui n'est pas ultra optimisé par rapport à ton OS pour gérer les fenêtres, les affichages, etc. Tout est un peu plus lourdingue. Et c'est une tendance qui, moi, me hérisse, parce que tu t'aperçois que ça soit sous Windows, Mac et compagnie, les mecs font plus du tout l'effort de faire des applis un peu optimisées, un peu jolies, un peu intégrées avec le système, tout bêtement. Et c'est une mode qui me paraît super dangereuse. Alors de temps en temps, t'as des aliens, genre les mecs de chez Twist, les mecs qui font Todoist, qui font un concurrent de Slack, qui eux sont en version native sur tous les OS. Alors évidemment, c'est plus de taf, mais alors tu lances l'application et d'un coup tu te dis, mais en fait elle va super vite ma machine. Mais en fait c'est super rapide cette bécane, qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe que le truc il est un minimum optimisé et j'ai l'impression que plus personne se fait chier à faire ça en 2018 actuellement. Donc ça c'est une partie du problème qui commence à me les briser menu. Mais là où je commence aussi à en avoir ras-le-bol, c'est les mecs qui vont faire des applis en mode bah non, mais franchement faire de la maintenance sur 50 milliards de versions, ça nous fait chier, donc on va faire de la merde partout. Avec en tête de liste nos amis de chez Amazon avec Prime Video, dont j'ai déjà parlé.
Oui.
Qui font toujours de la merde. Et là, en fait, nous avons nos amis de chez Google. Tu sais, la PME Google qui a pas, tu sais, ils ont pas de sous, ils ont pas d'argent pour embaucher des mecs. Donc, ils te sortent une nouvelle version TVOS. Donc, pour Apple TV, tu fais le petit truc que personne n'achète. Pour faire leur version YouTube, donc j'étais ironique, hein, je précise, hein, les Apple TV s'en vendent 2-3 millions. J'ai pas les stats, mais c'est un truc de ouf. Et les mecs donc te sortent une appli qui ne respecte aucune des guidelines TVOS, alors qui permet de gérer enfin plusieurs comptes, etc. Mais tu retrouves une navigation toute pourrie. Tu n'as plus, comme c'est plus du tout le framework TVOS, t'as plus de feedback audio quand tu changes de titre. Tu sais, t'as des petites cases, en fait, tu te balades d'onglet en onglet. Eh ben non, bah là, il y a plus rien. T'as plus de son. On avait l'habitude, hein, puisque Prime Video, c'est la même merde. Et là, tu te dis, mais c'est quoi la différence de prix vraiment et le respect de l'utilisateur et te dire, attends, on va fidéliser les mecs, on va vous filer un truc qui fait vraiment le boulot sur la plateforme que vous avez acheté. Parce que je vous rassure, hein, j'ai aussi la version Shield. Mais la version Shield, elle est adaptée à Android, mais elle est nulle aussi au final. Donc, c'est pas une raison, c'est pas une excuse. L'expérience utilisateur, elle est vraiment pourrie. Donc, je trouve que ça serait un minimum en 2018 de faire un effort petit 1 sur le design. Petit 2, bah, respecter ses utilisateurs. Et puis, bah, après, tu fais une maintenance correcte sur tes applications. Je parle pas de mecs qui sont des TPE, des startups lancées avec 3 gars dans un garage. Hein.
C'est clair.
Donc, je comprends pas que des mecs avec autant de moyens nous sortent des trucs aussi pourris sous prétexte qu'il faut le sortir sur plein de plateformes. Bah, ouais, je sais pas, engager des mecs, je pense que vous pouvez le faire vraiment.
Ça va mieux.
Écoute, je peux même pas les désinstaller, je crois que c'est pour ça que je suis super vénère.
Oui, c'est ça, t'es obligé de les utiliser.
Je suis obligé de les utiliser parce que bah, j'aime bien le contenu que je trouve à l'intérieur des apps, mais être obligé de me taper un truc qui t'insulte comme ça, ça m'énerve. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça, hein. Je fais de l'informatique depuis suffisamment longtemps pour voir ces trucs-là de manière cyclique, et j'espère que le déclic va arriver à un moment où les mecs vont se dire « Ah non, mais en fait, on savait faire du logiciel, pardon, on avait oublié quoi.
Ouais, » Amazon, si tu nous écoutes, fais quelque chose et vite. Et c'est la fin de ce 39e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine à 9h pour un nouveau round-up de l'actu. D'ici là, bah, bon week-end, Caf. On va pouvoir se détendre encore ce week-end. C'est cool. Hein.
Ouais, c'est cool. Je sais pas. Moi, j'ai un vrai problème. Je vous ai parlé de Monster Hunter la semaine dernière. Et ben,
ah, merde.
Ne tombez pas dedans. N'y allez pas, les gars. Ce jeu est dangereux. J'aurais préféré rester aigri et dire que c'était de la merde parce que j'aurais plus d'heures de sommeil. Mais c'est pas grave.
Et ben, bon week-end ludique alors.
Salut.
Salut.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
How's your girl, man?
She left me.
Oh.
Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van.
It's nice.
Yeah, right?